Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale, hein? Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Ah. Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
Il y avait donc Brassens, Léo Ferré, Mouloudi, Moustaki, c'est mon frère.
Ça, c'est magnifique.
Je vous ai posé une question.
Oh non, mais excusez-moi. Mais j'aimais beaucoup jouer à ça quand j'étais jeune homme. Et vous avez là un billard de toute beauté. Non, j'étais pas venu pour cette histoire d'armes. Mais quand je pense que chez moi, j'aurais même pas la place pour le loger. Même si j'en avais les moyens. Dans votre raccourci, j'ai plutôt l'impression qu'on s'y allonge. Hein? Enfin, on est plus vite arrivé dans le fond. Donnez-moi la main. Merci. Voilà la voiture en question, lieutenant. Le véhicule de marque Jaguar, enregistré au nom de la personne signalée disparue hier soir, le nommé Anthony Goodlin, sexe masculin, résident au numéro 111 Hightower Road, découverte approximativement il y a une heure par deux enfants prenant un raccourci pour se rendre à leur école. Vous voulez leur nom, lieutenant?
Quoi, leur nom? Le nom de qui?
Les enfants, j'ai relevé leur nom et adresse. J'ai bien fait?
Oui, très bien fait, oui, on verra ça tout à l'heure.
L'expertise effectuée dans les règles de l'art sur le susdit véhicule révèle des traces d'humidité et de moisissure, indiquant que le susdit véhicule a stationné sur le lieu de la découverte depuis la nuit dernière, ce qui est corroboré par la montre de bord du susdit véhicule électrique. Non, la montre électrique, arrêtée sur 0h18. Une balle a troué la vitre du côté conducteur, mais aucune trace de sang n'a été relevée, ce qui montre que la susdite balle n'a blessé personne avant de se loger au milieu du siège du conducteur. Les lumières étaient éteintes, le contact coupé et le frein à main desserré. C'est à peu près tout. Je crois qu'il est inutile de vous préciser les conclusions.
Quoi, les conclusions? Oui, mais précisez quand même.
Voilà ce que j'en ai déduit. Monsieur Goodlin, après avoir essuyé le coup de revolver dont vous voyez la trace, a bondi hors du véhicule, lequel a été poussé au fond du ravin, sans négliger le fait qu'il a pu être enlevé par une ou plusieurs personnes inconnues. Mes conclusions recoupent-elles les vôtres?
Est-ce que vous pouvez me dire comment vous vous appelez?
Oh, c'est bête, j'ai oublié de me présenter. Le sergent détective Frédéric Wilson, je vous prie de bien vouloir excuser mon incorrection.
Je vous en prie, y a pas de mal.
Un an de brigade criminelle, 2 ans de stage de perfectionnement supérieur et retour à la brigade le 6 juillet.
Vous êtes le type presque parfait du policier efficace, bravo.
Merci, lieutenant. J'ai obtenu la permission du capitaine de faire l'enquête avec vous.
Vous allez travailler avec moi?
Oui, enfin, j'espère que vous n'allez pas refuser, parce que le capitaine Richter dit que vous êtes un personnage légendaire dans la police locale.
Colombo, la lutte des classes ce soir à la télé. Alors, vous en faites une lecture surprenante pour tous ceux qui ont vu ces épisodes et en même temps qui nous permet peut-être rétrospectivement, sans prendre la peine de les regarder à nouveau, parce qu'on les a beaucoup en mémoire quand même, de réaliser tout ce qui se joue dans ces séries télévisées Colombo et...
D'analyse que je propose dans ce livre, qui est effectivement celle d'un affrontement de classe, c'est-à-dire que les intrigues de Colombo, elles ont un certain nombre de spécificités, d'originalité qui font la popularité toujours encore de la série. Mais parmi ces caractéristiques, il y a le fait que les épisodes sont structurés autour d'une confrontation entre un assassin et un policier, schéma extrêmement classique, mais ces deux protagonistes sont situés très précisément socialement. C'est-à-dire qu'on a systématiquement un assassin qui appartient à la haute société californienne et un policier qui, à l'inverse, présente un ensemble de traits caractéristiques des milieux d'origine modeste, en tout cas. Le lieutenant Colombo vient, il le raconte très souvent parce que sa vie personnelle et sa vie familiale occupent un grand rôle dans les épisodes. Il raconte toujours qu'il vient d'un milieu modeste d'immigrants italiens. Il est parvenu à une certaine mobilité sociale ascendante en travaillant dur, il l'explique toujours, mais c'est quelqu'un qui, par son style de vie, ses goûts, notamment ses goûts culturels ou gastronomiques, appartient au monde, aux classes populaires.
Alors, on sait tous que Colombo, d'une certaine façon, subvertit un petit peu les règles les plus classiques, en tout cas, des enquêtes policières. Cette série n'est pas la première à le faire, loin de là, mais c'est une série qui a pour particularité de ne pas cacher aux téléspectateurs ce qui s'est passé, puisque chaque épisode ouvre par le crime dont il va être question, et donc le spectateur a une longueur d'avance par rapport à cet enquêteur qu'il voit tenter de trouver à la fois qui est le coupable et quels sont ses motifs. Et c'est tout l'objet, donc, de ce suspense déplacé au fond de Colombo. Ça, c'est la subversion, je dirais, évidente que tout le monde remarque en regardant un épisode de Colombo.
Ah, c'est étonnant et admirable à quel point vous aimez vos orchidées. C'est vrai, ça. C'est, au lieu de vous précipiter à la banque en apprenant que votre neveu venait de se faire kidnapper, on m'a dit que vous étiez venu d'abord rendre visite à votre collection d'orchidées.
Veut-il dire qu'on me surveille, qu'on me fait suivre? Malgré les promesses que m'a faites la police, je vais en référer à vos supérieurs.
Ce n'est pas la peine, monsieur. L'ordre est formel, on me l'a bien précisé. C'est moi qui suis désigné pour surveiller vos allées et venues le plus discrètement possible. Je ne vous gênerai pas, c'est promis, vous n'avez rien à craindre.
Votre franchise me plaît, lieutenant, et je ne serai pas en reste avec vous. Je me moque éperdument de mon neveu. C'est un coureur de jupons doublé d'un pleutre qui se laisse mener par le bout du nez. Et si ce n'était pas le fait que je n'ai plus que lui comme parent en ce monde, je ferais savoir à ses ravisseurs à quel point je leur suis reconnaissant de l'avoir enlevé.
C'était vous, Columbo. Oui, j'espère qu'on ne vous a pas fait peur. Je vous présente le sergent Wilson.
Vous ne m'avez pas fait peur, mais d'avoir vu ce bandit tout à l'heure avec son masque qui lui donnait un air menaçant, j'avoue, être un peu sur les nerfs.
C'est tout à fait naturel, Monsieur Goodlin. On se met à votre place.
Merci beaucoup.
Monsieur Goodlin, ça nous intéresserait de savoir ce qui s'est passé exactement tout à l'heure.
Eh bien, l'homme en question a dit Goodlin. J'ai répondu oui, et il a ajouté « Donnez-moi le pognon ». Et je lui ai remis ma serviette. J'espère que vos hommes sont en train de fouiller les bois.
Ah non, monsieur, non, on vous a promis de ne pas nous en mêler tant que votre neveu ne serait pas libéré. Mais dites-moi, si vous revoyez cet homme, est-ce que vous pourriez l'identifier, l'homme de la rançon?
Je viens de vous dire qu'il portait une sorte de bas de soie.
Oui, c'est vrai. D'autant plus qu'il faisait très noir là-haut et... Mais sa voix, est-ce qu'elle vous est familière? Enfin, pourriez-vous la reconnaître ou bien sa façon de marcher?
Lieutenant... Je viens de vivre des heures vraiment épuisantes et effrayantes. Ça ne pourrait pas attendre jusqu'à demain.
Oui, je vous prie de nous excuser. Je suis sûr que vous devez vous dire qu'on manque un peu d'humanité dans la police. Je vous souhaite une bonne nuit.
Je présume que vous êtes amateur d'humour macabre. Bonne nuit, messieurs.
Il y a une forme de subversion ou de décalage beaucoup plus social sur laquelle vous insistez, qui se joue dans cette interaction particulière entre cet inspecteur issu des classes populaires ou des classes moyennes, et incarnation au fond de la fonction publique, et la figure qu'il a en face de lui, qui vient de différents horizons, et qui incarne des formes de pouvoir qui ne se limitent pas d'ailleurs au pouvoir économique. En ce sens, votre lecture n'est pas une lecture strictement marxiste de la série, même si vous reprenez l'idée de lutte des classes. C'est plutôt dans la filiation des travaux sur le goût et sur la distinction culturelle que vous inscrivez, Lilian Mathieu.
Oui, alors effectivement, le ressort, ce qui retient l'attention du téléspectateur lorsqu'il visionne un épisode de Columbo, c'est pas de savoir qui a tué, parce que ça on le sait d'emblée, c'est de savoir comment le policier va démasquer ce criminel qui a commis quelque chose de l'ordre du crime parfait. Hein, ce sont toujours des gens qui réalisent des meurtres extrêmement minutieux, très, très raffinés, je dirais. Et ce qui retient, si c'est un ressort qui retient l'attention du spectateur, c'est que, a priori, ce policier, il apparaît très mal équipé pour, en position extrêmement défavorable pour démasquer des assassins qui, effectivement, sont tous richissimes. Donc, effectivement, c'est une opposition de classe au niveau qui s'inscrit sur un registre économique, mais pas seulement, qui s'inscrit aussi au niveau de la notoriété. Ce sont des stars du cinéma, des auteurs de best-sellers, qui s'inscrit au niveau de l'intelligence. Ce sont des gens... suprêmement intelligent. Hein. On a des joueurs d'échecs professionnels, des surdoués, des inventeurs de génie. Ce sont des gens aussi également très raffinés, qui ont des collections d'art fabuleuses, qui ont un goût très sûr dans les différentes discipline artistique. Et donc, ce sont des modes d'inscription de la domination. Et cette inégalité des rapports sociaux que met en scène la série, elle est tout à fait décodable avec effectivement les outils de la sociologie et spécialement celle que propose Pierre Bourdieu dans La Distinction.
La trajectoire de la balle à travers la vitre montre qu'elle aurait dû lui passer à travers le corps. S'il avait été au volant, bien sûr. Mais vous voyez, il n'a pas été atteint. Non, pas la moindre trace de sang. Rien qu'une simple balle de revolver de calibre 32 dans le siège.
Je veux dire que Tony a depuis toujours cultivé l'art de l'esquive.
Je vois ce que vous voulez dire. Eh bien, c'est parfait, je vous rends ça, tenez. Et je voulais vous demander... Je crois que vous avez un pistolet, vous aussi, M. Goodling. Attendez, je l'ai noté là. Un 32, je crois bien. Hein?
Oui, en effet, c'est exact. Je dois l'avoir là, quelque part. Je ne l'ai pas vu depuis un an. C'est Tony qui me l'a donné. Il doit être dans un tiroir. Mais, lieutenant... La police est-elle enquêtée sur moi?
Oh non, pas du tout. Je suis seulement tombé sur une fiche que vous aviez remplie un jour au commissariat. C'est bizarre, je croyais l'avoir sur moi. Et en venant déposer une plainte à la suite d'une tentative d'effraction de votre serre.
Solarium.
Solarium, j'aime bien qu'on me corrige. Mais où est-ce que j'ai trouvé ce rapport? C'est quand même curieux, ça. Oh, là voilà. Là voilà. Oui, un inconnu avait pénétré ici et vous l'aviez, paraît-il, accueilli avec un ou deux coups de pistolet. C'est bien ça?
Colombo, vous êtes merveilleux. Un peu naïf peut-être, mais merveilleux. Vous connaissez par cœur le contenu de ce rapport.
Oh, à vrai dire...
Par contre, moi, j'en avais oublié les substances. J'ai en effet tiré dans cette direction, mais je n'ai réussi qu'à faire un trou dans le sol. Il n'y a eu plus de peur que de mal, en ce qui me concerne.
Oui, avec toutes les plantes et les choses de valeur qui sont ici, c'est encore une chance que vous ayez pu limiter les dégâts.
D'accord, je passe aux aveux. Mais il faut que je me change, on m'attend à la banque.
Vous avouez quoi?
Que j'ai une arme non déclarée quelque part, je ne sais où, dans cette maison. C'est ce que vous voulez que je vous dise?
Oh non, monsieur, non, non, croyez-moi. Ah non, je vous jure que... Ah ben, s'il fallait arrêter tous ceux qui ont les armes non déclarées... Une bonne moitié de la population de la ville serait sous les verrous.
Alors qu'est-ce que vous êtes venu faire ici?
Mais est-ce qu'on peut parler pour autant de revanche sociale à propos de Colombo? Parce qu'on a cet inspecteur qui a l'air presque au fond embarrassé, gêné, en fin de compte, quand il vient dérouler devant l'accusé, le suspect, la liste la déduction au fond de son enquête. On le sent presque gêné de mettre en cause un puissant et comme tout complexé... face à ce puissant qu'il surpasse par la puissance pour le coup de sa déduction policière et de son enquête.
Oui, alors le lieutenant Colombo, je pense que on peut gloser à l'infini sur ses options politiques sur lesquelles il reste très extrêmement discret. Je pense pas que ce soit foncièrement un révolutionnaire qui jubile d'arrêter des dominants. Néanmoins, c'est quelqu'un qui est pris guidé par un sens de la justice extrêmement fort, qui aussi et guidé par un sens du travail policier, en l'occurrence, qu'il faut mener. Et donc, ce qui l'oppose aux dominants, c'est qu'ils ne sont pas au-dessus des lois, qu'ils ne sont pas surpuissants, alors que très souvent, ces assassins sont des gens qui sont dans la toute-puissance, qui éliminent les obstacles qui s'opposent à leur puissance. Hein. Donc, Colombo vient avec des ressources qui ne sont pas celles de la culture, pas celles de l'argent, pas celles du pouvoir, mais avec les ressources de la vie ordinaire. C'est pour ça que je fais un parallèle entre Columbo et la sociologie de Harold Garfinkel, qui est basée sur les routines de l'existence quotidienne. Ce sont souvent ces routines qui permettent à Columbo de déceler une faille dans ce qui s'impose comme un crime parfait. Et il y a revanche de classe à la fin de l'épisode, parce que toute la confrontation, l'interaction entre les assassins et le lieutenant sont basées sur la domination, sont basées sur le mépris de classe, sur la condescendance, sur des expériences très souvent très, 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 très bien mises en scène et subtiles, mais néanmoins de l'humiliation de l'inférieur qui, finalement, avec ses ressources tiré de la vie ordinaire, et notamment cet ordinaire qui est incarné par sa femme légendaire.
Invisible.
Voilà, mais omniprésente, parce qu'il en parle tout le temps. Hein, avec ces ressources-là, qui sont celles d'un individu extrêmement moyen, voire même médiocre, sous bien des aspects, parvient à les mettre en échec.
Comment vous appelez-vous? Je veux dire votre prénom.
Ken.
Eh bien, Ken, nous avons dans le service un sergent détective, un certain Fred Wilson, qui est chargé de me seconder, d'après qui la voiture de madame ne se trouvait pas dans son garage à l'heure approximative où monsieur Tony Goodlin a été assassiné.
Alors, si j'ai bien compris, vous êtes venu ici pour m'accuser de meurtre?
Mais pas du tout. Il ne s'agit que... Il y a ce qu'on appelle en jargon de police des faits nouveaux, et je suis obligé de vérifier certains détails, c'est normal, non?
Cette nuit-là, j'étais sortie, en compagnie de Ken. Nous sommes allés en voiture faire une promenade au gré de notre fantaisie, sur le front de mer. Et ce n'est pas le souci que j'avais du sort de Tony qui aurait pu l'empêcher d'être victime de ces lâches agresseurs. Et je n'ai pas de compte à vous rendre.
Bien sûr, madame, bien sûr, mais c'est pas ce que je voulais dire. Mais pour être franc, madame Goodlin, il faut avouer que vous êtes une curieuse personne. Ça, vous n'êtes pas une hypocrite. Et je n'ai pas la moindre intention de vous ennuyer plus longtemps.
Allons-y, Joe, on largue les amarres.
Oh, attendez, j'oubliais. Ça va vous paraître un peu ridicule, je le sais bien, mais je n'y suis pour rien. Il se trouve qu'une personne m'a affirmé que vous aviez un amant, madame Goodlin. Et ce n'est pas tout. Cette personne, comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? Ah oui, Gloria West. Prétend que cet homme, enfin cet amant, qui vivrait à ce qu'il paraît à vos crochets, avait décidé de vous laisser tomber et même de quitter les États-Unis contre une somme de 50 000 $ que votre mari lui aurait remise. Remarquez que, à première vue, ça n'a rien d'invraisemblable. Mais vous savez, s'il fallait te croire...
Les parcours et les autres productions des créateurs de Columbo, et ce qu'on peut repérer en regard de leurs productions, notamment celles des années 60, où ils abordent dans des téléfilms des thèmes comme l'homosexualité, comme le racisme. Si on regarde aussi des éléments de l'autobiographie de Peter Falk, qui a été visiter la Yougoslavie dans les années 50, Yougoslavie communiste, on peut penser que ce sont des gens qui, globalement, on va appeler ça des libéraux au sens américain du terme, c'est-à-dire ce qu'on appellerait en France des gens de gauche. Bon, n'a pas de j'ai pas en tout cas de choses très précises sur leurs véritables options s'ils en avaient politiques et idéologiques.
L'inspecteur Columbo n'est pas l'inspecteur Harry, pour le dire autrement, et prendre un personnage populaire américain de la même époque incarné par Clint Eastwood.
Ah oui, là c'est l'opposé diamétral, parce que l'inspecteur Harry se contrefiche du respect de la loi, alors que le lieutenant se permet parfois de petites entorses, mais il est quelqu'un extrêmement respectueux de la loi, et justement, il tient à l'imposer, à imposer son respect, y compris à des gens des couches dominantes qui se sentent autorisés à prendre des largesses avec la légalité.
Qu'est-ce que vous fichez ici, vous ?
En vous attendant, j'admirais votre collection. C'est curieux quand on y songe. Je n'y connaissais rien du tout en orchidées, et voilà que tout à coup, ça me passionne au point d'en rêver la vie.
Voulez-vous me dire, je vous prie, ce que vous faites ici?
Il s'agit d'une chose sérieuse. Il y a du nouveau dans l'affaire en question.
Oui, je sais. La police a retrouvé le pistolet dans la maison de Cathy. Ça va mal pour elle. Je viens de la quitter il y a quelques instants.
Oui, ça va mal. C'est pour ça que je suis venu attendre ici le rapport du laboratoire. Tout dépend de ses conclusions.
J'aimerais quand même savoir pourquoi vous êtes venu l'attendre ici en pleine nuit.
Dites, j'ai buté dans un pot vide qui traînait et j'ai fait quelques dégâts sans le vouloir, croyez-le bien. Mais n'ayez pas peur, je vais tout remettre en place.
C'est sans importance. Je veux savoir ce que vous faites chez moi à 3h du matin.
Je vais vous dire la vérité. Je ne m'attendais pas à vous voir revenir si tôt. Oh, j'allais oublier. Vous avez, comme on dit, la main verte, monsieur.
J'ai quoi ?
Regardez le violet d'Afrique, la plante de ma femme. Savez-vous qu'il est en train de lui pousser une petite fleur ? Alors, je ne sais pas comment vous faites, mais je peux vous dire une bonne chose. C'est un vrai miracle.
Lieutenant, depuis ce matin, j'ai vécu des moments épuisants. Veuillez me laisser seul. Emportez votre fleur et sortez.
Attendez un moment. J'entends un bruit. C'est sûrement la personne que j'attends.
Graveur ?
Est-ce que c'est vous ?
Lieutenant, je n'y comprends rien du tout. Nous étions à mi-chemin, nous conduisions Mme Goodin au secteur pour interrogatoire et on nous a donné l'ordre de venir ici.
Ah, je suis désolé de ce contretemps, sergent. Madame, comment allez-vous ? Vous devez sûrement être très fatigué. Voulez-vous vous asseoir ?
Non, ce n'est pas la peine, je resterai debout.
Ah, je vais vous apporter une chaise. Vous serez quand même plus à l'aise. Et le temps que vous êtes levé.
Je suppose qu'en prison, j'aurais eu largement le temps de me reposer, lieutenant.
Sergent, est-ce que vous avez arrêté Mme Goodley ?
Eh bien, j'ai téléphoné mon rapport au capitaine Ritchie en lui exposant simplement les faits. Elle sera sans doute inculpée aussitôt.
Non, sergent, non. Oh, excusez-le, madame.
Dites-moi, Colombo, qu'est-ce que ça veut dire ?
Patience, je vais vous expliquer. Je suis venu chez vous pour attendre un renseignement très important qu'on va m'apporter d'un instant à l'autre.
Quel renseignement, lieutenant ?
Lieutenant ! Lieutenant Colombo !
Vous étiez là, lieutenant. Merci, Graveur, je vous revaudrai ça. Bon, voyons un peu. Excusez-moi, j'en ai que pour une minute. Voilà, c'est ça. Bien, j'ai plusieurs balles ici. La première trouvée dans la voiture, elle est de calibre 32 et provient, d'après l'expertise, de l'arme du crime. Et la seconde vient du corps de la victime, toujours de calibre 32 et provenant, d'après les experts, de la même arme que la première que voici. Tout est parfaitement clair.
Nous étions déjà au courant, lieutenant. Dites-lui, mon ami.
Les deux balles proviennent en effet de l'arme que nous avons découverte dans le sac à chaussures. Et le sergent Graveur a dit que la balistique certifiait que c'était l'arme du crime.
D'accord, jusqu'ici, vous êtes dans le vrai. Sergent, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, parce que je crois que sans vous, ça ne me serait pas venu à l'idée. Je suis de la vieille école et les procédés de recherche nouveaux ne me sont pas familiers. Et comme je ne m'étais jamais servi de cet appareil de détection, ça m'a demandé presque une heure. Mais c'est vraiment épatant. Vraiment épatant. Vous voyez ça ?
Oui, qu'est-ce que c'est ?
Une troisième balle, de calibre 32, elle aussi. Et toujours d'après les experts en balistique, elle provient de la même arme d'où viennent les deux autres balles. Monsieur Goodlin, je ne sais pas du tout comment vous allez nous expliquer tout ça.
Et pour quelle raison devrais-je vous...
Ça y est, je crois que vous commencez à comprendre, hein? Oui, c'est ce que j'étais en train de faire tout à l'heure quand vous êtes arrivé. J'ai trouvé la troisième balle enfouie profondément dans le sol. C'est sans doute une des deux ou trois balles que vous aviez tirées sur le cambrioleur il y a environ un an et vous n'aviez atteint que le sol. J'ignore toujours comment vous allez nous expliquer ça, monsieur. Le fait que la même arme qui a tiré cette balle dans le sol ait été découverte chez madame au cours d'une perquisition. Sergent, voulez-vous accompagner monsieur Goodlin?
Monsieur Jarvis Goodlin, j'ai le devoir de vous informer que d'après la loi, vous avez le droit de... par ici, monsieur.